Le journal Florence Paracuelos. Bonjour Florence.
Bonjour Ali, bonjour à tous. À la une ce matin, l'enquête après le carnage au Sri Lanka. 290 morts hier dans des églises et des hôtels, 24 arrestations. Le ministre de l'Intérieur évoque un groupuscule islamiste. Nous serons à Colombo dans un instant. Un parcours à la Reagan, en plus rapide, un comédien, mais 4 mois pour rafler le pouvoir en Ukraine. Volodymyr Zelensky massivement élu hier, mais sans majorité pour gouverner. On verra ça avec notre envoyé spécial à Kiev. Rendez-vous jeudi soir pour les annonces d'Emmanuel Macron reportées pour cause d'incendie à Notre-Dame de Paris. On verra s'il confirme la suppression de l'ENA ou s'il parle de l'école, de la magistrature. On sait que le président veut réformer la formation des hauts fonctionnaires. Un peu d'histoire dans 20 minutes, Ali, un médiéviste au micro.
Et un exercice d'histoire du temps présent une semaine après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Analyse d'une émotion collective et pour comprendre ce que cet événement dit de notre rapport au passé. Un invité dans le grand entretien, l'historien Patrick Boucheron. Le standard est ouvert. Posez-lui vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
Dans ce journal, également les salariés de PSA Sochaux, Haute-Urbain ce matin et tous les jours fériés du mois de mai, à l'exception du 1er, voilà qui ulcère la CGT. Les Françaises en finale de la Fed Cup de tennis. Et puis sexe, drogue and rock'n'roll, c'est le retour, mais avec moins de drogue manifestement, des Anglais de Fat White Family.
France Inter.
Qui a attaqué le Sri Lanka hier? Qui a fait exploser des bombes dans 3 églises en pleine messe de Pâques et dans 4 hôtels de luxe? Par 2 fois, ce sont des kamikazes qui ont actionné leur charge. Toujours pas de revendication ce matin et le bilan s'est considérablement alourdi. 290 morts, 500 blessés. Antoine Guinard, vous êtes arrivé dans la nuit à Colombo en plein couvre-feu, dans une ville qu'on imagine barricadée.
Oui, c'était très difficile de quitter l'aéroport. Ce matin, la circulation a repris peu à peu avec la levée du couvre-feu à 6h. Mais dimanche soir, les rues étaient totalement désertes, hormis la présence de groupes de militaires qui sillonnaient la ville et contrôlaient les véhicules à Colombo et sur la route de l'aéroport. À l'aéroport, il y avait de longues queues à la fois pour ceux qui tentaient de partir, de quitter l'île, et ceux qui arrivaient, que les passagers devaient attendre souvent plusieurs heures pour trouver des taxis. Encore aujourd'hui, les militaires quadrillent la ville. On se croirait à l'époque de la guerre civile où il y avait des barricades un peu partout. Même les autorités sri-lankaises ont d'ailleurs conseillé aux gens de rester chez eux aujourd'hui, ce qui se comprend étant donné la situation. Et les plateformes de réseaux sociaux, principalement Facebook et WhatsApp, restent largement inaccessibles. Elles ont été bloquées dans le pays, principalement pour éviter la propagation de fausses rumeurs ou de messages et photos incitant à la haine envers certaines communautés religieuses.
Alors Antoine, que sait-on de l'enquête et des premières arrestations qui ont eu lieu dès hier?
Alors on fait maintenant état de 24 suspects arrêtés depuis hier donc. Ils sont en passe d'être interrogés par la police. Une camionnette blanche aussi qui aurait servi à acheminer les suspects à Colombo où la majorité des explosions ont eu lieu a été interceptée et son chauffeur placé en détention. Selon la police sri-lankaise, plusieurs des explosions qui ont visé 3 églises donc et plusieurs hôtels de luxe auraient été provoquées par des kamikazes. Dimanche soir, également, un engin explosif artisanal a été retrouvé à proximité de l'aéroport de Colombo. Le ministre sri-lankais de la Défense a fait état d'un groupuscule islamiste sans donner plus de détails. On ne connaît donc toujours pas les motivations ni l'organisation qui se cache derrière ces attentats.
Antoine Guinard, envoyé spécial de France Inter à Colombo, capitale du Sri Lanka, où il est 10h30 du matin. Le Sri Lanka, vous en avez parlé Antoine, c'est un pays qui a vécu 30 ans de guerre civile entre la minorité tamoule hindouiste et le pouvoir cingalais bouddhiste, comme 70% de la population de l'île. Bonjour Audrey Tison.
Bonjour.
À côté de ces deux composantes du Sri Lanka, il y a des musulmans et des chrétiens qui n'avaient jamais été frappés de manière aussi violente et tragique.
Oui, des chrétiens très minoritaires dans le pays, seulement 7% de la population, une communauté réputée pacifiste. Pourtant, elle avait déjà été ciblée ces dernières années.
Depuis 2009, on assiste à la multiplication des actes contre cette communauté. Pas des actes de grande ampleur, mais des avanies quotidiennes.
C'est Anthony Goroponceau qui nous apporte ces précisions. Il est enseignant-chercheur à Bordeaux, actuellement en mission en Inde. D'après lui, tout se passe comme si on cherchait des boucs émissaires depuis la fin de la guerre avec les Tamouls. Les musulmans ont été plusieurs fois attaqués par des extrémistes bouddhistes. Cette fois, ce sont les chrétiens qui sont visés. Peut-être parce que cette religion a des croyants dans différentes parties de la population.
Les Cingalais sont chrétiens, mais également les Tamouls. Donc les chrétiens sont les seules personnes à unifier en fait la communauté, à unifier les antagonismes antérieurs entre Cingalais et Tamouls. Je ne serais pas étonné que les attentats soient revendiqués par un groupuscule musulman, mais je ne voudrais pas faire non plus de la prospective.
Cette piste islamiste est en effet envisagée par les enquêteurs. Le groupe NTJ, notamment surveillé, il préparait des attentats contre des églises, d'après les services de renseignement. Mais d'autres pistes sont ouvertes, hein, comme celle d'extrémistes bouddhistes qui chercheraient à semer la terreur dans le pays. L'enquête suit son cours.
Audrey Tison, merci. Autre continent, autre attaque au Mali. Ce sont les djihadistes qui ont frappé de nouveau hier contre un poste de l'armée à la frontière mauritanienne. 11 soldats maliens ont été tués.
8h06, la suite du journal avec l'histoire d'un comédien, Florence, subitement élu président de la République.
L'histoire en Ukraine s'écrit comme dans la série du nouveau président, élu hier avec 73% des voix. Selon les derniers résultats, Volodymyr Zelensky est donc passé des plateaux de stand-up et de télé au pouvoir suprême. À tous les pays de l'ex-URSS, regardez-nous, tout est possible. Voilà le premier message qu'il a lancé hier soir. Ses 4 mois de campagne contre la corruption ont donc eu raison du sortant, Petro Poroshenko. Bonjour Claude Brouillot.
Bonjour Florence.
Envoyé spécial de France Inter à Kiev. Claude, le score de Zelensky est sans appel, mais pour l'instant il n'a pas de majorité pour gouverner.
Oui, et ce n'est pas le moindre des paradoxes d'ailleurs de la soirée d'hier. On a eu droit à un vainqueur, Volodymyr Zelensky, qui réalise un score certes attendu mais tout de même écrasant et qui a joué l'humilité, et un vaincu, Poroshenko, qui a semblé lui déjà prêt à repartir en campagne.
Jamais il ne faut lâcher. Jamais. Jamais. Je veux dire fermement que je vais rester dans la politique.
Petro Poroshenko le sait mieux que quiconque. L'élection d'hier était importante, mais l'Ukraine n'est pas un régime présidentiel. Volodymyr Zelensky n'a aucun parti pour l'instant qui le représente au Parlement. Il sera donc obligé d'essayer de nouer des alliances dans les semaines à venir s'il veut faire passer ses premières réformes primordiales, ou alors il lui faut provoquer des législatives anticipées avant celles prévues fin octobre, en espérant construire sa propre majorité. En clair, le plus dur commence pour Zelensky, définitivement sorti depuis hier soir de sa campagne virtuelle.
Claude Brouillot, merci, en direct de Kiev. Chez nous en France, c'est Emmanuel Macron qui avait créé la surprise en mai 2017. D'ailleurs, il a été l'un des premiers à appeler Volodymyr Zelensky pour le féliciter. Mais après presque 2 ans de mandat, la surprise a laissé la place à la crise des gilets jaunes, encore dans la rue samedi. Et c'est vendredi que le président rendra ses conclusions après le grand débat national. Pas d'allocution solennelle, comme c'était prévu la semaine dernière, le soir où Notre-Dame a brûlé, mais un discours et une conférence de presse à l'Élysée. Élodie Forêt, ces annonces ont été largement déflorées. On aura peut-être des surprises et dans tous les cas, un cap que va fixer le président.
Face aux journalistes réunis dans la salle des fêtes de l'Élysée, il y aura d'abord des propos liminaires dont le contenu reste secret. Le président à la primeur esquive un conseiller. Un président très attendu notamment par sa majorité. La semaine dernière, les annonces qui ont fuité sont apparues comme un catalogue de mesures, se désole une députée LREM. Jeudi, il faudra donc donner du sens, une cohérence politique. Voilà ce qu'on a déjà fait, voilà où sont nos priorités et comment nous allons changer de méthode. Redonner du sens donc et préciser les mesures sur la suppression de l'ENA par exemple, très critiquée ces derniers jours, alors qu'il ne s'agirait pas réellement d'une suppression mais plus d'une refonte, glisse un élu. Un discours qui sera suivi d'une séance de questions-réponses avec les journalistes, un exercice inédit pour Emmanuel Macron, le président désormais adepte du débat et de la consultation, qui pourrait aussi confirmer jeudi la tenue prochaine d'une conférence sociale et environnementale en plusieurs épisodes. Prolonger la séquence et égrener les réponses comme un remède à la déception.
Et parmi les annonces qui ont fuité la semaine dernière, la suppression ou la transformation de l'ENA et la refonte plus globalement de la formation des hauts fonctionnaires. Ainsi, le cas de l'école de la magistrature a-t-il été évoqué sans être nommément cité. Laurélie Carif, ça fait des années que des voix s'élèvent pour demander sa suppression.
Marine Le Pen, François Fillon, Henri Guénaud ou encore Éric Dupond-Moretti, la star des avocats pénalistes, ne manque pas une occasion de brocarder l'ENM qui, selon lui, favorise une forme d'entre-soi et de corporatisme. Il est ici sur le plateau de l'émission On n'est pas couché sur France 2.
La magistrature a des travers que je dénonce depuis des années, à commencer par son encastrement, l'école. Quand on a 23 ans qu'on devient juge, c'est très compliqué de ne pas prendre la grosse tête. C'est très compliqué de ne pas être arrogant. On ne peut pas être juge si on est lisse.
Lui plaide par exemple pour un système où les juges, les procureurs seraient d'anciens avocats, à l'image de ce qui se fait en Grande-Bretagne entre autres, idée balayée par Céline Parisot, présidente de l'Union syndicale des magistrats.
Je pense qu'en visant l'ENM, on se trompe de cible. Aujourd'hui, plus de la moitié des nouveaux magistrats recrutés ont une expérience professionnelle antérieure. Un tiers des étudiants sont boursiers, donc on voit bien que les profils sont extrêmement divers. Il y a énormément de stages, pas seulement en juridiction, hein, chez les avocats, en prison. Donc aujourd'hui, ces critiques-là, elles sont complètement obsolètes.
En tout cas, depuis que circule le bruit d'une éventuelle suppression de l'école bordelaise, elle dit avoir reçu d'innombrables messages de magistrats, d'étudiants en droit, farouchement opposés à ce scénario.
Et puis, il y a une petite musique qui tourne en ce moment, c'est le Travailler plus. Hier, la députée de la majorité, Aurore Berger, a défendu l'idée d'une nouvelle journée de solidarité pour financer la dépendance et le grand âge, un jour férié de moins potentiellement, comme aujourd'hui chez PSA à Sochaux, les ouvriers au turbin ce lundi de Pâques pour faire face à une hausse de la production. Ce sera pareil le 8 mai et le jeudi de l'Ascension, pas le choix. Et même si ces jours-là sont payés 170% du salaire, c'est absolument scandaleux pour Jérôme Boussard, secrétaire général de la CGT à Sochaux.
Avant, c'était au volontariat, donc c'est quand il y avait un jour férié où on devait travailler, PSA faisait appel à des volontaires. Aujourd'hui, ils disent « vous travaillez, point ». Ça s'arrête là. Pour nous, au CGT, on touche pas à des acquis, les jours fériés sont des acquis, on touche pas à des jours fériés. S'il y a besoin de voitures, et ça on le comprend, il suffit d'embaucher, il suffit de mettre la production sur la semaine et on ne touche pas à des jours fériés. Quoi. Les gens sont tellement fatigués qu'ils ont besoin de se reposer. Nous, CGT, voilà, les jours fériés doivent appartenir aux salariés pour leur permettre de passer du temps en famille, se reposer. Et voilà, un jour férié, c'est un jour férié, on ne travaille pas un jour férié. Quoi.
Et bien voilà, le secrétaire général de la CGT-PSA à Sochaux, au micro de Jonathan Landais de France Bleu, Belfort-Montbéliard. Carlos Ghosn, de nouveau inculpé par la justice au Japon pour abus de confiance aggravé sur des suspicions de détournement de fonds via une filiale Renault-Nissan à Oman. L'ancien patron, sous le coup de 4 inculpations désormais, est toujours à Tokyo détenu. C'est sur franceinter.fr. La pollution, même en Bretagne, en alerte rouge aux particules fines, le Finistère, les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine enregistrent un niveau anormalement élevé de ces particules dans l'atmosphère. Il est recommandé là-bas de limiter les activités en extérieur et de limiter sa vitesse à 20 km/h sur les voies express. Les dames du tennis français et leur nouveau capitaine en finale de la Fed Cup au terme d'un long dimanche de tennis à Rouen face à la Roumanie. C'est Caroline Garcia et Kristina Mladenovic qui l'ont emporté en double face à Simona Halep et Monica Niculescu. Fierté de Caroline Garcia qui a manifestement surmonté son inimitié avec sa coéquipière. Ces deux-là ne s'entendaient plus vraiment depuis 2 ans, mais elles ont gagné.
C'est un truc de dingue. En plus, c'était avec beaucoup d'intensité, on va dire. On s'est pas vraiment tourné les pouces. Mais c'est vrai que ça a été un sacré week-end. De toute façon, il fallait ça pour battre Simona et la Roumanie. Et franchement, je pense qu'on peut tous être fiers des efforts qu'on a fait. C'est positif. Après, bah voilà, le capitaine m'avait annoncé assez tôt que c'était nous qui partions si c'était à deux partout. Donc on était à fond derrière Pauline et on attendait vraiment l'égalisation. On s'est bien préparé avec Kristina. On était sûrs de nos forces. On sait qu'on avait des automatismes ensemble. Il fallait se battre du premier au dernier point et aller chercher tout ce qu'on pouvait aller chercher.
Voilà, les Bleus devront maintenant battre l'Australie chez elle au mois de novembre pour ramener le trophée. Et puis c'est fait pour le PSG, champion de France hier, avant même d'avoir joué grâce à un match nul de Lille contre Toulouse. Les Parisiens ensuite ont mis 3 buts à Monaco, 3 buts signés Kylian Mbappé contre un seul dans la lucarne du PSG. C'est son 8e titre en championnat. Enfin, voilà, des mauvais garçons, on leur doit le renouveau de la scène rock en Angleterre. Les Fight White Family sont de retour avec un 3e album intitulé Surf's Up, enregistré à Sheffield. Mathieu Culeron, et vous nous dites que pour la première fois au miracle, ils l'ont enregistré presque totalement sobre.
Le groupe le plus punk d'Angleterre est de retour et il a bien failli ne jamais revenir. Explication sur un moment de stress intense par Lias, chanteur de Fight White Family.
Au départ, j'étais sur les nerfs car le groupe s'était séparé. Saul ne faisait plus partie de la formation. Il écrivait avec moi et composait la majorité des titres. Donc les 6 premiers mois, je parcourais la ville de Sheffield en panique. Quelle histoire déprimante. On a sorti 2 albums, le temps de devenir accro à la drogue et puis retour à Pôle emploi.
To the unemployment office.
Mais voilà, l'histoire en a voulu autrement et les compères se sont finalement retrouvés pour repartir sur de nouvelles bases. Les rockers qui se sont transformés en crooners déglingués, faisant groover les nappes de synthé sous des textes cyniques et acides. Pour Fatwet Family, de toute façon, l'heure n'est pas à la concession.
Les gens pensent qu'ils peuvent faire de l'art par décret, mais l'art, ça n'a rien à voir avec la démocratie, l'art n'a rien à voir avec la morale. L'art, c'est le chaos, c'est la clé de voûte de la culture.
Ce dernier album, Surf's Up, explore des terrains inconnus pour le groupe, intelligent, caressant, épique, parfois troublant. Fatwet Family prouve une nouvelle fois leur maîtrise de la folie, une trilogie déjà culte qui en dit long sur notre époque.
Mathieu Culeron ou la résilience selon Fight White Family.